time, save my soul, they tell me. Renounce all those material things you gain by exploiting other human beings. Consume more than you need. This is a dream. Make you papa or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. A grave that's deep and wide enough for me and all my mountains. So thanks. Oh, they tell me still time to save my soul, they tell me. All those material things you gain by exploiting other human beings. Mostly I feel lonely. Stones. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. I'll be dreaming, 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 dreaming. I'll be dreaming, 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 dreaming.
Vous l'aurez compris, Tracy Chapman rêve, elle a de la chance et elle a bien raison. Toujours Romu Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, et toujours évoquer le monde du travail et l'application de cette loi qui devrait nous donner beaucoup d'espoir sur l'égalité entre hommes et femmes. Viviane Guenic est avec moi aujourd'hui dans notre studio de Ferney et à qui vous pouvez tout poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur ces questions-là en appelant le 50 40 51 41 059 depuis Genève. Eh bien, Viviane a fait une recherche financée par le Fonds national de la recherche, une recherche sur le thème construire l'égalité entre hommes et femmes dans l'entreprise. Alors, concrètement, cette recherche, elle avait justement l'objectif de voir comment chacun imagine la place des hommes et des femmes et comment elle pourrait être perçue de façon plus égalitaire et aussi surtout comment chacun se voit comment on voit la place du travail dans sa vie aujourd'hui. C'est un petit peu cette optique-là, Viviane ?
Oui, c'était la question qu'on s'était posée. C'était, bon, peut-être expliquer un peu. Il y a eu donc le Fonds national a lancé ce qui s'appelle les programmes nationaux de recherche. Ce sont des programmes où le Fonds national reçoit une somme avec une consigne du Conseil fédéral de stimuler des recherches par rapport à des thèmes qui ensuite pourraient servir au niveau donc du Conseil fédéral. Alors le thème de l'égalité a été posé avec 5 millions à la clé, ce qui n'est pas énorme. Hein. Il faut savoir que le programme sur la vieillesse a eu 30 millions. Mais les femmes, bon, c'est un sujet mineur, tout le monde le sait. Donc c'était le thème du programme s'intitulait « Les voies vers l'égalité ». Et notre projet s'inscrit donc dans ce cadre en essayant de voir justement quels étaient les freins ou les avancées en question, par rapport à l'égalité dans les entreprises. Alors on avait envie de faire une recherche pas du tout statistique, mais vraiment effectivement depuis le dedans, dans des entreprises, comment ça se joue, comment les hommes et les femmes vivent le travail, se côtoient ou se distinguent, comment les employeurs parlent de leurs employés et employées, comment eux-mêmes définissent leur travail, qu'est-ce qu'ils font en vrai, est-ce que ce qu'ils disent correspond à ce qu'ils font. Et puis un peu, effectivement, la question de la valeur du travail dans leur vie et comment ils s'arrangent, entre autres, avec la famille, puisqu'on sait bien que tout un discours sur les femmes au travail, entre autres, est corrélé à la question de la famille. On dit toujours, mais les femmes sont avant tout des mères et pas nécessairement, et après, éventuellement, des travailleuses, mais c'est leur fonction principale reste la fonction de mère. Alors, on a fait cette recherche qui vient de se terminer, qui vient d'être... Donc
qui fera l'objet d'une publication.
Voilà, on a fini, on est bien content.
Youpi.
Et on a fait cette recherche donc dans 3 entreprises à Genève. Alors bien sûr qu'on n'a pas choisi les entreprises les plus caricaturales. Déjà sur la question, déjà premièrement parce qu'il fallait pouvoir entrer dans l'entreprise, donc il fallait des directions qui soient d'accord de nous recevoir. Et on prenait du temps de leur employer. Et donc, il devait être un petit peu motivé par la question. Alors, on a fait cette recherche dans une entreprise, une grosse entreprise d'alimentaire, une entreprise d'électronique et une entreprise des médias, dont on pourra parler peut-être plus longuement, puisque c'est quand même... on est dans les médias. Comment est-ce qu'on traite les femmes? Comment est-ce que les hommes et les femmes se côtoient dans le secteur des médias? Et on a à la fois demandé aux employeurs et à la fois aux employés donc des questions sur comment se répartissaient les postes, comment ils évaluaient leur travail, quelles étaient un peu leurs trajectoires professionnelles et quelle était la place du travail et comment ils s'arrangeaient avec leur famille. Alors on a utilisé plusieurs méthodes. Et alors ce qui était intéressant de voir, c'est que si on regarde un organigramme d'une entreprise, il est neutre. Par excellence, il ne s'occupe pas des femmes et des hommes. Il vous dit production, entretien, administration. Vous avez le dessin de l'entreprise, mais les femmes et les hommes n'y sont pas placés. Mais si on va visiter l'entreprise, on voit en fait qu'il y a des secteurs féminins et des secteurs masculins. Donc de fait, si on met un sexe sur l'organigramme, on voit que l'entreprise n'est pas mixte. Mixte dans le sens où il y aurait une véritable
mélange,
cohabitation des deux sexes. Alors, on demande pourquoi. Alors la première, en général, les employeurs ne nous ont jamais répondu directement. Pour eux, ce n'est pas vraiment une question pertinente. Ils vous parlent de permis ou d'autres choses, mais pas... il faut un peu les pousser. Et ensuite, il y a toujours une explication qui est liée vraiment au type de travail qui est fait dans l'entreprise. Mais ce qui était intéressant pour nous, c'est que l'explication était très naturelle, mais elle était toujours différente. Donc, il y avait toujours des bonnes raisons. Alors, une entreprise disait... Ici, c'est une question de force. Le travail est difficile physiquement. Donc là, c'est les hommes qui le font. Ce qui divise les hommes et les femmes, c'est la force physique. Une autre entreprise avait un magnifique discours sur le fait qu'il fallait faire un travail minutieux. Et donc, c'était un travail de femme. Parce que là, je cite, l'employeur nous disait « Les femmes ont la qualité de la routine. » Donc, c'est bon. C'est bon pour elles. Et alors, dans l'entreprise des médias, on avait un autre discours. Dans l'entreprise des médias, en fait, la question des femmes est beaucoup plus pertinente. Il y a d'ailleurs un bureau de l'égalité dans cette entreprise, une personne qui est chargée de la promotion des femmes. Donc, la question des femmes est posée à l'intérieur de l'entreprise. Et alors, les employeurs ont un discours forcé, non sexiste. Les femmes et les hommes peuvent tout faire. Il n'y a aucune différence, etc. Ce qui, en quelque sorte, masque le fait qu'il y a quand même des différences. Par exemple, la question du temps partiel, elle est proposée à tout le monde, hommes et femmes, mais de fait, il n'y a que les femmes qui la prennent.
Juste peut-être une précision, Viviane. Au moment où vous avez interpellé ces trois entreprises, quelle fut l'attitude, la réaction des responsables de l'entreprise en question à votre demande? Ils ont d'emblée été très ouverts, accueillants, ils étaient prêts à se questionner, à accepter d'être mis en question facilement sur ce type de demande. Est-ce que vous avez dû, avant de choisir ces trois-là, essuyer des refus?
Ah oui, bien sûr. On a envoyé toute une série de contacts. Et on a eu ces réponses. Bon, on voulait pas de toute façon en avoir plus que 3 ou 4. Hein. C'était pas l'idée, n'était pas de faire une immense étude, puisqu'on voulait beaucoup s'appuyer sur du qualitatif, ce qui fait qu'on peut pas avoir des échantillons monstrueux. Mais bien sûr qu'on a eu des refus pour différentes raisons, des peurs qui ont été exprimées. Et bon, il faut quand même savoir que l'enquête se déroulait dans l'entreprise et entre autres, on faisait passer un questionnaire aux employés dans l'entreprise. Ça durait quand même 1 heure, donc en fait, on prenait 1 heure par personne, ce qui représente un coût pour l'entreprise. Donc l'entreprise qui acceptait en payait en quelque sorte le coût. Et puis, ils avaient peur que ça fasse monter la mayonnaise, que ça fasse s'exprimer des revendications.
Et là, on vous l'a expliqué clairement comme ça, ou vous l'avez compris par le biais de
son entendu? Non, on nous a dit, oui, mais on n'aimerait pas. Alors nous, on essayait de dire qu'au contraire, ça pourrait être un instrument utile,
de dialogue
et de gestion utile, etc. Donc, celles qui ont accepté, finalement, ont joué le jeu totalement, hein. Pour en revenir donc à notre troisième entreprise des médias, donc là, tout le discours est assis à des cas où il n'y a pas d'hommes et de femmes, c'est la question de la formation. C'est avant l'entreprise. Les femmes n'ont pas la formation qu'il faut pour entrer dans certains secteurs très techniques, entre autres. Et puis, par contre, aussi, ce qu'on a senti, nous, c'est la résistance des gens eux-mêmes, par exemple des équipes masculines, à admettre une femme. Vous avez par exemple les côtés techniques, la prise de vue ou la prise de son qui sont que masculines et ils n'ont pas envie d'avoir des femmes. Vous avez les scripts qui sont que féminines et elles n'ont pas tellement envie d'avoir un homme. Donc il y a cette résistance, ou le maquillage par exemple, la résistance du corps de métier lui-même à changer, même si en haut on a soi-disant un discours très, très égalitaire. Alors, chez les médias, c'est étrange parce que c'est un secteur qui s'est féminisé énormément. Il y a énormément de femmes dans les médias maintenant. Et ça, pas seulement à Genève, pas seulement en Suisse, partout.
Surtout au poste de journaliste, donc. Parce qu'il faut peut-être distinguer les diverses fonctions.
Ouais. Donc, mais c'est une fonction qui a pas mal de prestige dans le média, la fonction de journaliste. Et je pense que l'entrée des femmes a justement... le fait qu'il y ait beaucoup de femmes a forcé finalement l'entreprise à assumer ce problème. Donc c'est pas l'entreprise qui a fait le choix de s'ouvrir aux femmes, c'est les femmes qui sont entrées et qui ensuite ont posé la problématique de la promotion des femmes. Donc c'est vraiment leur présence. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes journalistes.
Mais est-ce qu'elles elles assument cette tâche comme les hommes? Ou bien est-ce qu'elles les assument avec leur spécificité de femme? Parce que si tu parles du temps partiel, on sait trop bien à quel point, parfois, pour pouvoir rester à un poste de travail, il faut accepter de ne pas prendre de temps partiel. Alors est-ce que, par exemple, les journalistes sont confrontés à cette situation-là dans l'entreprise où tu as fait ton enquête?
Alors oui, c'est un vrai problème. Là, par exemple, justement, toute la question du temps partiel est posée, mais en même temps, les gens savent que le temps partiel a un prix, beaucoup plus que dans les autres entreprises, parce que, surtout les femmes, elles savent qu'elles pourraient éventuellement avoir des possibilités de promotion, mais qui n'existeront pas s'il y a le temps partiel. Donc elles font vraiment un choix assez crucial par rapport à une carrière possible et aussi par rapport à l'intérêt du travail, parce que les personnes qui sont à temps partiel, elles sont un peu bouche-trou. Alors on accepte les temps partiels, mais on leur fait faire des tâches qui ne sont pas très intéressantes. Donc, ça pose un vrai problème. On a parlé des journalistes. Il y a très peu de femmes journalistes à temps partiel. Il y a très peu de journalistes à temps partiel.
Masculin, donc, tu veux dire?
Même femmes.
Mmh. Ah oui, parce que...
Voilà. C'est très difficile de faire du temps partiel dans le journalisme, parce que non seulement on n'est pas là à 100%, en plus on est à 120% si c'est pas plus. Et ce qui fait d'ailleurs qu'une femme nous disait « Moi, j'aimerais travailler à temps partiel pour faire du 100%. » tout en disant en même temps, mais j'ai peur que ça soit pris comme un désinvestissement. Parce qu'il y a cette idéologie aussi que c'est une profession dans laquelle il faut s'investir totalement. Alors, tu disais, est-ce que les femmes sont différentes que les hommes à des postes comme journalistes ? Je ne crois pas. Dans le sens que, effectivement, elles ont des possibilités de promotion. Donc, il y a aussi des femmes qui ont des positions de cadre, qui dirigent des équipes, qui sont productrices d'émissions. Donc, il y a cette, ces possibilités existent pour les femmes et elles les prennent. Ce n'est pas du tout qu'elles refusent. Elles ont envie aussi. En ce qui concerne le traitement de l'information, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différence entre hommes et femmes. Je ne sais pas, toi, tu connais aussi bien ce secteur. D'ailleurs, il y a eu une enquête dont tu as parlé, qui avait été faite dans le monde entier, qui montrait que s'il y avait plus de femmes journalistes, les femmes ne devenaient pas nécessairement source d'information. Donc les femmes journalistes interviewent aussi majoritairement des hommes et pas des femmes.
On les retrouvait toujours dans les mêmes types d'informations, les mêmes types de sujets. Oui, mais quand ma question, je te disais tout à l'heure, est-ce qu'elles sont différentes ? C'est surtout que visiblement, si elles ne peuvent pas travailler à temps partiel, si justement pour pouvoir accéder à ces postes de responsabilité, elles doivent travailler à 120%, ça veut dire que tout ce qui fait la multiplicité de la vie d'une femme, c'est-à-dire un engagement professionnel, des enfants, etc., doit disparaître pour pouvoir assumer une telle responsabilité. Donc, elle se retrouve au même statut que les hommes. Finalement, on se demande. Donc, il y a comment il n'y a pas de différence.
Il y a eu pas mal d'évolutions. On a regardé par exemple qui avait des enfants. Hein. Et on voit par exemple chez les femmes cadres journalistes, il y a trois comportements qui correspondent à trois âges différents. Il y a les jeunes femmes qui font pas d'enfants. Donc, jusqu'à 30 ans, elles n'ont pas d'enfants. Ce qui correspond aussi un peu sociologiquement au fait que plus on fait des études, plus on repousse le moment de la première naissance. Celles qui, aujourd'hui, entre 30 et 40 ans, elles ont eu des enfants. Donc, elles essayent de faire carrière et parents en même temps. On verra avec pas mal de problèmes. Enfin, elles essayent. On ne sait pas très bien combien de temps ça durera. Et celles qui ont aujourd'hui plus de 45 ans n'ont pas fait d'enfants. Donc, celles qui étaient journalistes il y a 20 ans, 10, 15 ans, à l'époque, elles ont fait le choix, j'aurais pas d'enfant.
Elles disent que c'est la profession qui leur a imposé en quelque sorte ce choix.
Oui, en fait, ça s'est passé comme ça. Mmh. Elles n'ont pas fait d'enfant, c'était un choix. Il y en a qui le regrettent, il y en a qui ne le regrettent pas. Mais c'était évident à l'époque qu'on ne pouvait pas faire les deux choses en même temps. Donc les femmes qui sont âgées maintenant, enfin plus âgées, sont sans enfant. Les jeunes femmes, enfin les femmes d'âge moyen, elles ont maintenant ces deux choses. C'est quelque chose de relativement nouveau, puisque c'est une population qui est arrivée dernièrement, le fait de, voilà, je suis journaliste et je fais un enfant. Et puis les jeunes femmes, elles n'en font pas. Est-ce qu'elles suivront le modèle des grands-mères ou des mères ? On ne sait pas, on verra, on pourrait voir dans 10 ans. Alors comment est-ce qu'elles font ? Bon, alors elles font des choses... Elles ont toutes trouvé des systèmes. Hein. Elles sont pas. Et là-dedans, disons, une fois que le système est trouvé, il fonctionne. Elles disent pas qu'elles sont complètement débordées. Ça marche. Alors, bon, beaucoup ont des personnes qu'elles payent. C'est quand même des salaires.
C'est-à-dire que voilà, leur statut professionnel et leur salaire leur permettent
donc
de faire ça.
Elles ont des femmes de ménage, des nurses pour les petits-enfants, des jeunes filles au père. Certaines sont en couple et le mari participe aussi d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui font appel à leur propre famille, qui vivent avec leur mère ou proches de leur mère ou proches de la tante, de la sœur, de la belle-sœur, etc. Il y a tout un réseau là, de femmes souvent qui aident. Parfois, il y en a qui les amènent, quand ils sont petits, elles les amènent au boulot, ou elles ont toujours le bip avec elles pour savoir où sont les gamins. Donc, en fait, elles ont trouvé des solutions qui fonctionnent.
Est-ce qu'on retrouve ce même système d'organisation dans l'entreprise d'électronique et je ne me rappelle plus maintenant l'autre entreprise,
l'alimentaire.
L'alimentaire, voilà.
Alors là, disons, elles ont toutes, elles ont un comportement donc par rapport à avoir fait des enfants beaucoup plus tôt. Elles ont eu la plus, par exemple, si on prend l'entreprise alimentaire, beaucoup ont interrompu leur, puisqu'on a pu voir leur projet, leur trajectoire, ont interrompu à certains moments leur
travail professionnel
mmh. pour élever leurs enfants. Maintenant, les enfants sont plus grands. Et puis, donc, il y a des possibilités de travail à mi-temps qui sont prises par des jeunes femmes avec enfants et qui le vivent très bien. Bon, elles ont fait ce choix. Sinon, elles aussi, elles trouvent des organisations qui sont peut-être moins onéreuses. C'est pas la femme de ménage ou la jeune fille au père, mais c'est la mère gardienne, c'est la crèche, c'est la voisine. Il faut de toute façon trouver quelque chose. Mais ce qui est très fort dans ce qu'elles disent, c'est qu'en fait, toutes trouvent que leur travail est important. Et toutes, en fait, quand elles sont au travail, elles sont au travail. C'est pas des mères, justement, même si c'est ont des enfants. Elles se sont organisées, elles disent, bon, ben voilà, on est mais au travail, on est des travailleuses, et elles tiennent beaucoup à cet élément, que ce soit au niveau social, trouver des gens, que ce soit au niveau financier, hein, être autonome. Et là, c'est très fort, il y a vraiment ce discours sur l'indépendance. On ne veut pas dépendre d'un homme. Il y en a qui y sont obligées, hein, parce qu'elles sont seules avec les enfants, divorcées ou célibataires, etc. Et puis, il y a aussi, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, ça me correspond. Donc il y a un très fort discours sur l'identité professionnelle qui a évolué. Il y a 10 ans, on n'avait pas ce discours. On avait un discours chez des femmes qui faisaient des travaux, qu'on pourrait dire pas intéressants, qui disaient « moi, si je pouvais, j'arrêterais ». Chez des femmes très formées qui ne travaillaient pas, qui disaient « j'aimerais pouvoir retravailler ». Donc on avait ce double discours. Maintenant, on ne le trouve pas. Et on a le même discours chez la journaliste et chez l'ouvrière. J'aime ce que je fais. Ce n'est pas du tout lié à des travaux glorieux par rapport à des travaux sous...
répétitifs. Et,
au contraire, elle nous disait, moi j'ai plein de petites vis et puis à la fin de la journée j'ai un appareil, je fais quelque chose avec mes mains.
Et puis, elles arrivent bien à faire, enfin, je ne sais pas qu'elles arrivent ou elles n'arrivent pas, mais comment elles situent justement leur travail à partir du moment où elles lui donnent la valeur que tu viens de déterminer par rapport à l'ensemble de ce qu'elles doivent faire et comment on leur attribue une situation intéressante dans l'entreprise. Est-ce qu'elles sont soucieuses de ce que leur position soit différente dans l'entreprise par rapport à ça ? Ou toi, tu avais l'air de débarquer avec tes questions. Elles-mêmes, est-ce qu'elles se sentaient concernées par les questions que tu leur posais ?
Alors, au début, je racontais ce que nous disaient les employeurs sur pourquoi c'est divisé hommes et femmes. Ce discours est totalement repris par les gens eux-mêmes. Il y a vraiment un consensus, si ce n'est pas une plus, sur le fait qu'il y a des postes femmes et des postes d'hommes. Et les gens n'ont pas envie de se mélanger.
Dans toutes les entreprises, les trois.
Bon, chez Média, moins dans des secteurs qui sont déjà mixtes. Mmh. Dans les secteurs qui ne le sont pas, on retrouve le discours. Dans les secteurs comme le journalisme où c'est mixte, bien sûr, non. Et ça devient absurde. Par exemple, je me souviens d'un poste d'une femme qui était responsable d'un atelier, qui dirigeait un robot immense, qui faisait des petites pièces électroniques, qui savait tout faire sur ce robot, qui avait un savoir-faire, qui était débrouillarde, qui savait le démonter, le remonter, qui comprenait dès qu'il y avait une panne, qui venait à 8h, à 3h du matin pour le mettre en marche quand il fallait faire les réglages, etc., pour que ça soit prêt. Donc vraiment un immense investissement. Et elle avait un homme sous ses ordres. C'était un des rares cas où une femme commande un homme. Et elle disait, ouais, il n'est pas à sa place là, parce que ce n'est pas un travail pour un homme. Il faut être toujours assis, c'est un travail répétitif. Alors qu'elle, elle ne faisait absolument pas de travail, ni assis, ni répétitif. Mais elle avait cette vision, c'est assis, c'est répétitif, c'est pour un homme. C'est pour une femme. Mmh, mmh. Et cette division est très forte. Parce que finalement, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un travail féminin ? Moi, je disais, ce sont les qualités de la couturière et de la mère. Il faut être sensible, savoir s'occuper des gens, être à l'écoute, maternant. Il faut être assis.
Minutieuse.
Un travail appliqué, on utilise beaucoup les yeux. Et là, on les retrouve partout. Même chez Média, finalement, certains postes sont exactement décrits par ces fonctions.
Parce que l'idée que les femmes, le travail répétitif est un travail de femme, ça c'est quand même étrange. Ça veut dire, il y a pour moi derrière cette idée-là, le fait que la femme est soumise et qu'elle ne se rebelle pas contre le répétitif.
Et puis surtout, elle est liée à sa machine. Elle est liée. La femme, elle est attachée. Hein, vraiment concrètement, elle ne peut pas se lever, par exemple. Il y a très peu de postes où les femmes se déplacent, alors que l'homme ouvrier se déplace énormément, que ce soit dans l'atelier, que ce soit dans l'entreprise ou dehors même. Mm-hmm. Tandis que les femmes, jamais, elles ne se déplacent pas, elles sont vraiment attachées. La secrétaire a son traitement de texte, la couturière a sa machine à coudre, l'ouvrière d'électronique a sa machine à faire des trous ou à la presse, etc. Il y a vraiment... comme si on reproduisait le poste de la femme au foyer, attachée à son foyer. Elle ne peut pas se déplacer. On n'aime pas les femmes qui marchent, on n'aime pas les femmes qui se déplacent. C'est très mal vu. Et en même temps, du côté des hommes aussi, il y a le même discours. Les femmes ne peuvent pas faire ce travail parce que c'est trop dur physiquement. Il faut être costaud. Et puis, il faut être autoritaire. Et puis, il faut savoir s'imposer. Et puis les femmes, elles ne savent pas faire ça, elles sont trop timides. Et puis elles n'ont pas les connaissances aussi. Donc ça revient. Et on retrouve vraiment une culture commune dans les entreprises sur ce qui différencie les hommes et les femmes. Alors nous, on se rend compte que vu que le discours change d'une entreprise à l'autre, on voit bien la construction sociale de ce discours, qu'il ne dépend d'aucune... facteur naturel, même pas la force physique, hein, parce que finalement il y a aussi des hommes qui sont pas très costauds et puis il y a des femmes qui sont assez costauds, ni de facteur technique, parce que la technique ça s'apprend et les femmes qui travaillent connaissent la technique, ni de facteur humain, parce que finalement il y a aussi des femmes aussi peau de vache que des hommes. Je suis pas sûre que les femmes sont tellement plus douées que ça pour les sentiments ou les relations humaines. Il y a aussi des femmes qui savent pas y faire. Elles savent aussi s'imposer, elles ont de l'autorité, donc tout ça n'est pas vu. On voit que certaines choses très précises qui existent effectivement dans le travail, mais tout le reste on le voit pas.
Et ça, c'est y compris colporté par les très jeunes femmes, parce que c'est vraiment l'héritage d'une vision de la place de la femme dans le monde du travail ou de l'homme, on a l'impression de voir des bouquins qui datent du 19e siècle. Donc même les très jeunes femmes, elles colportent ça complètement.
Si elles sont dans des ateliers séparés, oui. Si elles sont dans des ateliers mixtes, non. C'est en ce sens que la mixité, je pense, c'est quelque chose d'intéressant à faire avancer, parce que ça casse le stéréotype. À ce moment-là, les femmes se rendent compte qu'elles savent faire des travaux que font les hommes, que les hommes ne savent pas faire non plus d'autres choses. Disons, on voit que ça ne marche pas comme ça, ça peut marcher autrement.
J'aimerais qu'on revienne de l'autre côté de la page musicale que nous allons mettre, à l'idée que certains ou certaines disent ne pas vouloir un mélange, parce que, pourquoi ? Visiblement pour des histoires plutôt affectives apparemment, non ? Ou de connivence. J'aimerais qu'on y revienne tout de suite.
Ladies and gentlemen, the Rose!